Alors, nous allons prendre un petit temps de méditation de la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons parler un peu d'une prière que un serviteur de Dieu a fait. Et nous le connaissons tous, c'est l'apôtre Paul. Donc nous voulons voir cette prière qu'il avait adressé à Dieu en faveur des Colossiens. Et le titre de notre méditation, la prière de Paul pour les Colossiens. La prière de Paul pour les Colossiens. Et nous savons tous, frères et sœurs, que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, savent l'importance de la prière. La Bible nous recommande que nous devons prier les uns pour les autres. Et nous devons aussi prier pour l'Église dans son ensemble. L'Église locale, l'Église universelle. Et l'apôtre Paul, excusez-moi, si vous pouvez le fermer, c'est mon téléphone, j'ai oublié de l'éteindre, excusez-moi. Si vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Et la vie de l'apôtre Paul, si nous lisons la parole de Dieu, sa vie chrétienne a commencé dans la prière. Le début de sa vie chrétienne a commencé par la prière. Et si nous lisons dans Actes chapitre 9, les versets 10 à 12, Actes 9, 10 à 12, et juste au début du verset 12, quand le Seigneur envoya Ananias auprès de Saul, à l'époque il s'appelait encore Saul, quand le Seigneur envoya Ananias auprès de lui, le Seigneur dit à Ananias, cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il fait? Car il prie. Voilà le début de sa vie chrétienne. Car il prie. Donc sa vie chrétienne a commencé par dans la prière. Et Paul était un homme de prière. Il était un homme de prière. Nous pouvons citer beaucoup de références bibliques, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9, l'apôtre Paul a prié pour lui-même. Nous n'allons pas lire ça, donc faute de temps. L'apôtre Paul a prié pour lui-même. Il a demandé aux autres de prier pour lui aussi, dans Éphésiens 6, 19 à 20. Il a demandé aux autres de prier pour lui. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi intercédé pour les autres. Il a fait l'intercession en priant pour les autres. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble ce soir. Parce qu'il a prié pour les Colossiens. C'est pour cela que je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1. Verset 9 jusqu'au verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 14. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché. Voilà la prière qu'il a adressée à Dieu pour les Colossiens. Et ce passage montre comment l'apôtre Paul, a prié pour eux et ce qu'il a demandé pour les Colossiens. Vous savez, dans ce passage, il est important de noter quelque chose de très important, de noter l'engagement de Paul avant de voir ce qu'il a demandé à Dieu. Le début de ce passage nous montre l'engagement de Paul dans la prière. Nous voyons au verset 9. Il est dit ceci: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. La première chose que nous voyons de son engagement, c'est sa prière est marquée par la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Parce que nous voyons verset 9, il est dit, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous. Donc Paul savait ce que signifie une prière incessante, sans relâche. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Il s'est engagé à cela. Et s'adressant aux Thessaloniciens, vous savez, Paul les avait exhortés en ces termes, toujours concernant la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est un verset que nous connaissons bien. Il a exhorté les Thessaloniciens, prier sans cesse. Il savait pourquoi. Prier sans cesse. Parce que lui-même, il priait sans cesse. Il a pris cet engagement en lui-même de prier sans cesse pour les enfants de Dieu, pour les Colossiens. Nous ne cessons de prier pour vous. Oui, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, frères et sœurs. Même nous aussi aujourd'hui, persévérons dans l'arrière. Prions sans cesse. Nous devons avoir cet engagement-là comme Paul et dire, nous ne cessons de prier pour vous. Oui, nous devons donc persévérer dans la prière. Ça, c'est le premier engagement que nous voyons dans sa prière. Et pour persévérer, même l'Église primitive, dans Actes des Apôtres, il est dit que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Ma sœur, mon frère, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il ne faut pas se relâcher. Ça, c'est un exemple que Paul nous donne de persévérer. Quelles que soient les circonstances, persévérons dans la prière. Parce que la prière est très importante. Elle est très importante dans la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait, la prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. J'ai dit, ah bon? Et les frères disaient, mais oui, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas. Et quelqu'un qui ne respire pas, il est mort. Donc, persévérons, frères et sœurs. Vraiment, Paul nous exhorte de persévérer dans la prière. Le deuxième engagement de Paul, nous voyons que dans sa prière est marquée par un désir profond de demander, un désir profond. Il est dit, nous ne cessons de prier pour vous et de demander, toujours au verset 9, nous ne cessons de prier pour vous, nous demandons, nous ne cessons de demander. Donc il avait ce désir-là de demander quelque chose pour le Colossiens. Sa prière est remplie d'un profond désir de demander quelque chose en faveur des Colossiens. Des fois, on nous dit que bon, je veux prier, mais je ne vois pas, il n'y a pas de sujet de prière. Non, il y a toujours le sujet de prière. Tu peux avoir un désir profond de demander quelque chose pour ton frère, pour ta sœur, pour tes enfants, pour ton mari, pour la famille, pour l'Église du Seigneur. Il y a toujours quelque chose, nous devons toujours avoir ce désir profond de demander quelque chose pour le bien spirituel des uns et des autres. Le troisième engagement dans la prière de Paul, nous voyons que cette prière est marquée par l'unité. Toujours au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit ceci, c'est pour cela que nous aussi, depuis que les jours nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. Il y a l'unité. Vous savez, frères et sœurs, nous pouvons prier seuls. C'est vrai, c'est pas mauvais. Nous pouvons prier seuls, mais nous pouvons aussi prier ensemble. La prière de plusieurs a beaucoup plus d'efficacité. Et ce que nous voyons dans ce passage, cette prière est marquée par l'unité. Il ne dit pas que je ne cesse de prier pour vous. Non, il dit nous. C'est qu'il n'était pas seul. L'unité dans la prière. Et c'est ce que nous faisons aussi ici. Ce soir, par exemple, nous sommes plusieurs. Alors, nous ne cessons pas de prier et de demander à Dieu pour son Église, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles même, pour notre vie spirituelle, pour notre croissance spirituelle. Nous ne cessons pas de demander à Dieu. Voilà le premier point de l'engagement dans la prière de Paul. Maintenant, rentrons dans le contenu de sa prière. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Quels sont les éléments qu'il fait sortir de sa prière? Du verset 9 au verset 14, Paul prie pour sept choses. Nous n'allons pas voir toutes ces sept choses en détail, on n'a pas le temps. On va seulement survoler. Paul demande, prie pour sept choses en faveur des Colossiens. Premièrement, il dit au verset 9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Voilà la première chose que Paul demande à Dieu pour les Colossiens. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il désire pas autre chose, mais il ne désire pas la connaissance pour la connaissance, pas la connaissance intellectuelle pour grossir la tête. Non, c'est pas ça. Mais il veut que les Colossiens comprennent à quoi Dieu les a appelés. Est-ce que Dieu attend d'eux? C'est ça, la connaissance de la volonté de Dieu. À quoi Dieu les a appelés? Est-ce que Dieu attend d'eux? Et c'est la même chose aussi que Dieu désire et attend de nous aujourd'hui. Ce que Paul a demandé pour les Colossiens, est vrai aussi pour nous aujourd'hui. C'est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Savoir à quoi nous avons été appelés. Savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, Marcel. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, le verset 3, il est dit ceci. Ce que Dieu veut, quand on dit ce que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Et vous pouvez continuer à la suite. Voilà ce que Dieu veut. Nous pouvons peut-être lire cela, c'est très important. 1 Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez de la débauche, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous qui sommes ses enfants. Et ce que aussi, c'était le désir aussi de Paul pour les Colossiens. Et c'est pour cela qu'il a demandé cela pour eux dans sa prière. La deuxième chose que Paul demande dans sa prière, il dit qu'il de marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est au verset 10. Le verset 10, il est dit, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » Oui. Ils veulent que les Colossiens comprennent, connaissent d'abord et comprennent la volonté de Dieu afin qu'ils puissent l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Ainsi, ils vont marcher d'une manière digne du Seigneur, lui satisfaisant pleinement. Quand vous connaissez, vous avez la connaissance de la volonté de Dieu, vous la comprenez, cela va vous pousser à mettre cela en pratique. Comment mettre ça en pratique? C'est en marchant d'une manière. Quand vous la mettez en pratique, vous marchez d'une manière digne du Seigneur et vous lui êtes agréable. C'est ça que l'apôtre Paul veut pour les Colossiens. En ne cherchant pas la faveur des hommes ou plaire aux hommes, mais à Dieu. Quand vous marchez d'une manière digne du Seigneur, vous ne chercherez pas à plaire à l'homme, à un homme. Vous chercherez seulement à plaire à Dieu. C'est le deuxième point. Et le troisième point que Paul énumère dans sa prière, il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et le verset 10, la première partie du verset 10 parle de marcher d'une manière digne. Et la deuxième partie du verset 10, 10b, il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà, des bonnes œuvres. La Bible utilise souvent l'image de porter des fruits comme un signe de bonne santé et de croissance spirituelle. Si vous lisez la Bible, vous verrez, d'ailleurs dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. C'est le Seigneur qui a dit ça, porte beaucoup de fruits. Porter des fruits, c'est un signe d'une bonne santé spirituelle. Porter des fruits, c'est un signe de la croissance spirituelle. Est-ce que Paul demande dans sa prière pour les Colossiens? Nous allons peut-être dire, mais oui, mais c'est quoi porter des fruits? Quels sont ces fruits? Nous les connaissons parce que Galates chapitre 5, versets 22 à 23, dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ce qui est merveilleux quand on dit, Galates dit, quand tu dis, mais le fruit de l'esprit, le fruit, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Mais quand on énumère ces fruits, il y en a plus, il y en a beaucoup. Mais c'est un seul fruit. Donc, tu ne peux pas avoir l'amour sans la joie. Tu ne peux pas avoir la paix sans la joie. Donc, tout cela doit se manifester dans la vie de celui qui est enfant de Dieu, de celui qui marche d'une manière digne du Seigneur, de celui qui a compris, de celui qui a la connaissance de la volonté de Dieu. Ces fruits se verront dans sa vie chrétienne. Oui, la volonté de Dieu est que nos vies manifestent le fruit de l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul a insisté dans sa prière auprès du Seigneur, que les Colossiens soient vraiment qui puissent porter des fruits, des bonnes œuvres. Et nous aussi, nous devons porter des fruits. Quatrième élément dans sa prière, il dit à la suite que c'est la croissance par la connaissance de Dieu. Ah, la croissance par la connaissance de Dieu. Peut-être certains diront, donc tu peux croître sans connaître Dieu. Tu peux croître sans voir la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, il y a la connaissance et la connaissance. Certains ont la connaissance intellectuelle. Mais dans leur cœur, il n'y a rien du tout. Dernièrement, j'ai suivi un reportage. Il y a quelqu'un, ils ont dit, il est spécialiste des religions. Il a commencé à parler de la Bible, je l'ai suivi. Je dis, waouh! Il a une connaissance. Franchement, donc, lui, c'est un spécialiste de la religion. Surtout la religion chrétienne. Il est vraiment calé dans la religion chrétienne. Il vous cite des versets, il vous... tout. L'histoire biblique, il connaît. Mais ce qui m'a chagriné, c'est que quand le journaliste lui a posé la question, s'il est croyant, il dit non, 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 je ne suis pas croyant. Il dit, non, 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 je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien. Donc, non. Voilà. Donc, il a la connaissance, mais il n'y a rien, c'est vide. Pas de croissance, il n'y a rien. Et ce que Paul demande à Dieu pour les Colossiens, il leur dit, s'il faudrait relire le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes et croissant par la connaissance de Dieu. Et croissant par la connaissance de Dieu. Oui, la méditation de sa parole est la seule façon pour nous de grandir dans la connaissance de Dieu. Pas seulement grandir intellectuellement, mais grandir là, dans la foi, dans le cœur, dans notre cœur. Tu peux avoir cette connaissance comme ce spécialiste, il a cette connaissance, mais dans son cœur, il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a rien, c'est vide. Oui, Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Mais ne prenons pas cette parole du Seigneur comme étant un livre, un roman qu'on lit. On connaît l'histoire, mais dans le cœur, il n'y a rien. Mais Paul a prié pour que qui est la croissance par la connaissance de Dieu. Cinquième élément que nous voyons au verset 11, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 11 dit, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse. Oui, nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être fortifiés. Oui, ils demandent à Dieu qu'il leur donne la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et ça, nous le voyons dans Éphésiens chapitre 3, verset 15. Quand Paul a prié en faveur des Éphésiens, quand il a intercédé pour eux, Éphésiens 3, verset 15, qu'est-ce que Paul a dit? Éphésiens chapitre 3, verset 15. Oui, verset 16, pardon. Donc, je commence à partir du verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Le verset 16, pardon, pas le verset 15, verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Notre homme intérieur a besoin d'être fortifié. Et Paul dit puissamment. Puissamment. Parce que rien n'est possible avec notre propre force. Nous ne pouvons rien faire avec notre propre force. Rien du tout. Mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit cela en nous. Cela vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Souvent on dit que oui, je suis capable de faire ceci. Oui, non. Nous devons être fortifiés. Pas légèrement. La Bible insiste d'être fortifié puissamment par son esprit. La sixième chose, il dit qu'il soit persévérant et patient. Il demande à Dieu, il dit qu'il soit persévérant et patient. Le verset 11, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Nous n'allons pas vraiment trop rentrer en détail pour parler de la persévérance et de la patience, mais une vie qui plaît à Dieu ne peut pas être vécue par ses propres forces. Tu ne pourras pas être persévérant. Impossible. À un moment donné, boum, impossible. La force doit être fournie par Dieu. Et quand la force est fournie par Dieu, nous pouvons être persévérants. Ce n'est que grâce à sa puissance, frères et sœurs, que la persévérance et la patience sont possibles. Grâce seulement à la puissance de Dieu. En nous-mêmes, impossible. Impossible. Et la persévérance et la patience est l'attitude d'un chrétien au sein de l'épreuve. Au sein de l'épreuve. Au sein de l'épreuve, c'est là où Dieu, non seulement deux fois il nous teste, c'est là où Dieu voit comment nous allons réagir. Notre attitude. Mais quand nous sommes fortifiés puissamment par son esprit, il nous donne nous aurons la persévérance et la patience. Dans Jacques chapitre 5, le verset 11, nous lisons ceci. Il est dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que Dieu lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On nous parle de la patience de Job. Comment il a persévéré au milieu des épreuves. Comment il a été patient. Mais cela ne venait pas de lui-même. Il avait la connaissance de la volonté de Dieu. Il avait la croissance de la connaissance de Dieu en lui. Et cela a permis d'être persévérant. Parce qu'il était, fortifié par tout cela, par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de connaissance de la parole de Dieu, connaissance de Dieu, si vous n'êtes pas fortifié par l'Esprit de Dieu, si vous n'avez pas de croissance dans la connaissance de Dieu, c'est difficile d'avoir de la persévérance et de la patience au milieu des épreuves. Le septième point, nous ne rentrons pas vraiment en détail de ce point, donc juste pour énumérer le contenu de sa prière, parce que cette prière vraiment nous aide beaucoup. Le septième élément qu'il dit, qu'il relève dans sa prière, c'est qu'il soit rempli de reconnaissance à Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Le verset 12 dit ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il dit, vous devez être rempli de louanges et de reconnaissance à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons, pour lesquelles nous pouvons demander à Dieu, ça c'est sûr et certain. Mais il y a certaines choses ou certaines bénédictions pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Parce qu'il nous a déjà donné cela. Il nous a déjà donné cela. On peut demander certaines choses, mais certaines choses sont là pour que nous puissions exprimer notre louange, notre reconnaissance à Dieu. La Bible dit que Dieu nous a donné un héritage. Nous avons déjà cet héritage-là parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour cela que le verset 12 dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous prenons part déjà à cet héritage-là parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Il y a un héritage qui nous attend. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Demander? Non, rendons grâce. Louons le Seigneur, remercions le Seigneur. Soyons reconnaissants parce qu'il nous a donné ça. Nous avons déjà ça. En acceptant Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné déjà cet héritage. Alors pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu. Romains chapitre 8, les versets 16 à 17 dit ceci. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur. Exprimons notre louange et notre reconnaissance à ce Dieu. Oui, Paul dit, exprimez votre reconnaissance à Dieu et dites merci. Pourquoi? La deuxième raison, il dit, voyez de quoi il vous a délivré et vers quoi où il vous a amené. Vous étiez là, le Seigneur vous a délivré et vous a transporté quelque part. Et pour cela, rendons grâce à Dieu. Le verset 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Et il dit aux Colossiens, pour cela, rendez grâce à Dieu. Pour cela, dites merci à Dieu. Dans nos prières, dans vos prières, n'oubliez pas cela. Dites merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, soyez reconnaissants et rendez grâce pour cela. Et enfin, au verset 14, il dit, soyez dans la louange et la reconnaissance, car tous vos péchés sont effacés en Jésus-Christ. Vous avez le pardon de vos péchés. Et le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous avons le pardon des péchés en Jésus-Christ. Et dans nos prières, quand nous prions, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est la louange? Quelle est la reconnaissance envers Dieu? Frères et sœurs, que cela soit vraiment vrai aussi pour nous aujourd'hui. Tout ce que l'apôtre Paul a demandé pour les Colossiens est vrai aussi pour nous aujourd'hui. La prière de Paul est un exemple à suivre pour nous. Si Paul a pris l'engagement de prier sans cesse pour les Colossiens, cela doit nous encourager à renouveler notre engagement dans la prière. À renouveler notre engagement dans la prière. D'autant plus que Paul n'était pas à Colosse. Il n'était pas là, il était loin d'eux. Mais il priait pour des gens qui n'étaient pas avec lui, qui étaient à des centaines, peut-être des centaines ou des milliers de kilomètres, je ne sais pas, mais il priait pour eux. Il avait ce souci-là pour eux. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Il y a plein de sujets de prière que nous pouvons adresser à Dieu pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'Église, comme Paul a fait pour les Colossiens. Dans nos prières, nous devons prier pour les autres et pour l'Église. Que nous puissions grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu et de l'appliquer dans nos vies afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, persévérant et patient et rendant grâce à Dieu pour son œuvre qu'il a accomplie en notre faveur en Jésus-Christ à Golgotha. Voilà, frères et sœurs, que cette prière de l'apôtre Paul puisse être vraiment un modèle aussi de prière pour nous aujourd'hui. Frère Jean-Pierre.